Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Seconde partie, Vade Retro Satanas. Nous avons laissé le pasteur Samuel Paris à Salem au moment de l'arrestation de son esclave Tituba, accusé d'avoir ensorcelé sa fille Betty. Tituba ayant avoué avoir commerce avec le diable, elle a évité la torture et la peine de mort. Elle est pour le moment en prison. Les pasteurs de la région multiplient les prêches. On s'empresse de publier l'incroyable nouvelle. Il y a une sorcière à Salem. Mais s'il y en a une, il doit y en avoir plusieurs. Les jeunes filles de l'entourage du pasteur sont-elles les seules à être affectées de convulsions? La petite société de Salem s'anime. On entreprend de scruter le comportement de tous à la recherche du moindre indice de possession.
La contagion se propagea vite et de la maison du révérend Paris passa successivement dans une foule d'autres maisons dans la ville et ses environs. Et comme il était désormais établi qu'il y avait ici œuvre de Satan, on devait chercher et l'on trouva des suppôts. Le nombre se chiffra par centaines.
De partout, les dénonciations arrivent, venant de personnes présentant peu ou prou des symptômes analogues à ceux de Betty, Abigail et Anna. Dans presque tous les cas, on dénonce des pauvres femmes et de préférence des papistes, c'est-à-dire des catholiques. Rapidement, le contingent des hérétiques ne pouvant plus fournir de candidats, on cherche des coupables dans les milieux plus aisés. La jalousie se mettant de la partie, on pointe du doigt celui dont le niveau de vie est plus élevé. Un fermier accuse son voisin de sorcellerie quand il apparaît que ce dernier avait un an auparavant spolié son accusateur d'un arpent de terrain.
Ni la condition, ni la réputation la mieux établie, ni l'âge, rien ne fut épargné. Parmi les personnes dénoncées et accusées se trouvèrent un ecclésiastique, un capitaine de vaisseau, plusieurs employés, des dames respectables et jusqu'à une petite fille de 4 ans, la petite Dorcas, dont la mère, Sarah Good, avait été pendue. Cet enfant savait se rendre invisible et venait mordre les gens dans leur lit. Plusieurs montrèrent des morsures de ses petites dents à leurs bras.
Le 11 avril 1692, le premier procès se tient à Salem. Il est temps, car les prisons sont tellement pleines qu'il n'est plus possible d'y enfermer personne. 6 magistrats constituent le tribunal et plusieurs ministres de la foi. Au premier rang, on a placé les enfants déclarés ensorcelés. On fait comparaître une certaine dame Procter. Son mari, venu pour la défendre, n'a pas ouvert la bouche que les enfants du premier rang entrent en convulsion. C'est certainement un complice de sa femme. D'ailleurs, on ne peut en douter, car 2 gouvernantes de cette maison ont déjà été arrêtées quelques semaines avant. Les séances de procès s'enchaînent et tournent au délire collectif. Une certaine dame Carrie est interrogée après avoir été accusée par 2 filles. Elle déclare ne les avoir jamais vues. On demande à la malheureuse de se mettre debout et de tendre les bras en l'air pour l'empêcher de jeter un sort. Elle demande son mari à ses côtés. Elle veut seulement qu'il lui essuie les larmes qui coulent sur ses joues. On le lui refuse. Elle dit alors se sentir mal et demande l'autorisation que son mari la soutienne. Nouveau refus.
Vous avez la force pour tourmenter les gens et vous n'en avez pas pour vous tenir debout?
C'est alors que se produit un coup de théâtre. Un Indien étant entré dans le tribunal pendant l'interrogatoire, trébuche et tombe. On demande aux 2 fillettes qui ont accusé la dame Carrie de dire qui a fait tomber l'Indien. « c'est elle » hurle-t-elle en montrant du doigt la pauvre femme qui est au bord de l'évanouissement. Par chance, les 2 époux finissent dans le tumulte par s'extraire du tribunal. Sans attendre, ils prennent armes et bagages et quittent Salem pour se réfugier à New York. Un mois et demi après le début du procès, les victimes, qu'on appelle déjà convulsionnaires, accusent un marin, le capitaine de vaisseau John Aldin, de les avoir ensorcelés. Il affirme lui aussi ne pas connaître les fillettes.
Comment peut-on croire que je sois venu dans cet endroit où je n'avais jamais été auparavant pour tourmenter des personnes que je n'ai jamais vues ni connues ?
Le militaire, en effet, est de Boston. Il est malgré tout jeté en prison, d'où il parvient à s'échapper avec la complicité d'un geôlier. Cependant, le nombre des accusés ne cesse de grossir. Les exécutions ont commencé par pendaison. Le 30 juin, on condamne à mort 5 sorcières qui sont pendues le 19 juillet suivant. Le 5 juillet, 6 nouvelles condamnations à mort. L'une des femmes est enceinte, on diffère son exécution le temps qu'elle accouche. Une fois l'enfant mis au monde, on s'en va pendre la mère. Parmi les condamnés se trouve aussi un pasteur, le révérend George Burrow, qui a eu le tort de faire preuve de bon sens devant les juges.
Vous n'êtes que des ignorants. Il n'existe pas et il n'y a jamais eu de sorcière ayant fait un pacte avec le diable et pouvant envoyer un démon quelconque tourmenter une personne à distance.
Le jour de son exécution, son attitude est si digne que le peuple réclame sa grâce. Les petites convulsionnaires qu'on amène toujours avec soi se mettent à hurler, affirmant qu'elles voient, à côté du révérend, un homme en noir. Et c'est alors qu'apparaît un personnage que la postérité va désigner comme l'un des responsables de ces folies collectives, le révérend Cotton Mather, pasteur de Boston. Il est à cheval. Il pointe son doigt vers le condamné.
« Tu n'es pas pasteur, tu ne l'as jamais été. Ta foi n'est que mensonge et feinte. Ne vous laissez pas apitoyer par cet imposteur. Souvent, les démons se transforment en anges de lumière. »
Cotton Mather n'est pas un inconnu à Salem. Il est le fils d'Ancrease Mather, lui aussi pasteur à Boston. L'un est directeur d'un collège de Boston et l'autre y enseigne la théologie. Ayant appris que des cas de sorcellerie avaient été révélés à Salem, ils ont publié un ouvrage, Traité de sorcellerie et de possession, ouvrage qui va être largement publié dans la région. Dans ce livre, qui se présente comme un véritable manuel à l'usage de tous, ils expliquent comment reconnaître les signes de possession. Les ensorcelés, disent-ils, entrent en convulsion si on leur présente la Bible des protestants. Ils lisent volontiers les écrits des catholiques. Et c'est à ça qu'on reconnaît la présence de Satan. Les manuels des pasteurs Mather sont surtout précieux parce qu'ils éclairent sur les méthodes pour prouver qu'un sorcier ou une sorcière a commerce avec le diable. Parmi ces méthodes, il y a celle qui inclut ce qu'ils appellent la preuve spectrale. Les tribunaux ordinaires, ceux qui sont marqués par les habitudes impies des sociétés civiles, ne tiennent compte que des preuves rationnelles. Par exemple, pour condamner un voleur, il faut prouver qu'il est ou qu'il a été en possession de l'objet volé. Or, pour convaincre un individu de sorcellerie, ces preuves-là ne suffisent pas. La preuve spectrale tient compte des visions des victimes. Le fait même d'affirmer voir une ombre maléfique fait office de preuve. Qu'une écorchure soit apparue sur un bras, il suffit que la victime affirme avoir subi une attaque de spectre pour accuser la personne à laquelle elle associe ce spectre.
Beaucoup d'ensorcelées prétendirent s'être défendues contre ces attaques, auxquelles elles attribuaient des marques de coups et des blessures qu'elles étalaient devant les juges. Plusieurs avaient voulu frapper le spectre, mais même si le bâton ou l'arme dont elle s'était servie s'était brisée à terre, si l'accusé avait sur lui une cicatrice, c'était évidemment de ce coup de bâton dans le vide qu'elle provenait. Les juges y voyaient une preuve irréfutable de culpabilité.
Le rythme des exécutions ne faiblit pas. Pourtant, certains hommes chargés de l'arrestation des suspects finissent par se rebiffer et refuser cet odieux travail. Un certain John Willard, ayant voulu prendre la poudre des scampettes, est arrêté et torturé. S'il refuse de juger les sorcières, c'est forcément qu'il est lui-même sorcier. Il refuse de parler. On l'étend alors sur le sol et l'on empile des pierres sur son ventre. Au bout de 2 jours, le malheureux agonise. Un magistrat, chargé de le surveiller, lui rentre dans la bouche à coups de canne, sa langue qui pendait affreusement hors de la bouche. Le malheureux meurt dans d'atroces souffrances, tandis qu'à l'extérieur, on mène au gibet 8 nouvelles sorcières. Malheureux homme, puni pour avoir refusé de participer à la persécution de nouvelles innocentes. La folie collective atteint son sommet à la fin de l'année 1692, quand une jeune fille, ayant déclaré avoir vu le président du tribunal s'enfuir sur un spectre, on étouffe l'affaire en arrêtant un chien. La pauvre bête comparaît devant ses juges. Convaincue de sorcellerie, elle est pendue avec 2 autres sorcières. Les magistrats sont aussi attentifs à scruter les fautes des animaux que celles des hommes. N'a-t-on pas brûlé vif un coq quelque temps auparavant parce qu'il avait été accusé d'avoir pondu un œuf? Tous ces crimes menaçant de se retourner sur les bourreaux, les choses reviennent progressivement dans l'ordre à la fin de l'année. Le gouverneur royal du Massachusetts, William Phipps, fait paraître un texte dans lequel il écrit cette phrase restée célèbre.
« Il est préférable de laisser courir 10 sorcières que de condamner une innocente. »
Au total, ce sont tout de même 22 accusés qui ont été pendus en 6 mois. Depuis, cette affaire a soulevé beaucoup de questions. On s'est demandé légitimement comment une société de gens civilisés avait pu tomber dans une telle fantasmagorie. Les hallucinations qui accompagnent la consommation d'ergots de seigle ont d'abord été incriminées. La région, particulièrement humide, était propice à la croissance de ce champignon. Sa responsabilité dans les symptômes affectant les jeunes filles de Salem a cependant été écartée. Si l'ergot du seigle provoque parfois des crises de délire, il ne provoque jamais de convulsions. On a aussi évoqué les rivalités qui affectaient telle ou telle partie de la ville de Salem. Là encore, l'explication n'est pas satisfaisante. On voit mal comment des querelles de clochers auraient pu causer tant d'excès pendant si longtemps. En 6 mois, c'est presque la moitié du village de Salem qui s'est retrouvée en prison. L'explication, s'il y en a une, réside plutôt dans la crise de la foi chrétienne qui a affecté le monde au moment de la Réforme. Dès la fin du XVIe siècle, dans ce moment de grand doute, de grande incertitude, où ce qui était tenu pour vrai depuis la nuit des temps est remis en cause, les phénomènes de sorcellerie apparaissent partout en Europe. Ils se manifestent de manière différente selon les coutumes locales et les particularités de telle ou telle confession religieuse. Salem a pour singularité d'être une colonie spécifiquement puritaine. La pression énorme qui pèse sur les âmes et les cœurs engage à une conduite irréprochable. Le moindre écart, et c'est la promesse de l'enfer. Les symptômes de l'hystérie, mis au jour par la neurologie et la psychologie clinique, correspondent en tout point aux descriptions faites par les docteurs des sorcières de Salem. Agitation, paralysie, délire, convulsion sont des modalités connues de cette affection psychique qu'on retrouve dans toutes les sociétés où la religion exige des règles drastiques de conduite sentimentale ou sexuelle. Aujourd'hui, les sorcières ont disparu à Salem, où seul est évoqué le souvenir de leurs souffrances. Elles réapparaissent pourtant, chaque 1er novembre, mais très pacifiquement, pour la fête d'Halloween. C'est la fin de ce double épisode consacré aux sorcières de Salem. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Christophe Daviau. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt.